Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ainsi va la ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Je suis Paul Citron, urbaniste, coproducteur de l'émission avec Dominique Alba, architecte et urbaniste. Bonjour Dominique.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de prospective pour imaginer les manières d'adapter nos actions aux bouleversements en cours et à venir. Bonjour, je suis Stéphane Champaune, c'est pas moi, mais je vous dirai qui l'a écrit. Merci de m'avoir invité en ce début de l'année 47 pour témoigner de mon expérience de maire. Cela fera bientôt 30 ans que tout ça a commencé, nos 30 turbulentes. Lors des élections municipales de 2026, c'est le grand chambardement. Partout, les sortants laissent la place à des collectifs citoyens dont le seul programme est d'être à la hauteur des enjeux. C'est à ce moment-là que je deviens maire, après avoir été désigné candidat par le collectif. Et on se retrousse les manches, pas seulement les élus, les militants ou les équipes de la commune, mais tous les citoyens, dans nos maisons, nos rues, nos quartiers, dans nos façons de nous déplacer, de consommer, dans nos métiers, dans nos vies finalement. Évidemment, il y a des hésitations, des conflits, des erreurs. Certains renoncements sont plus douloureux que d'autres. Mais on fait notre part, on décarbone, on adapte, on se débarrasse des énergies fossiles, on repense nos modes de vie sans laisser personne de côté. On libère aussi nos rues des voitures, on brise le bitume, on régénère les sols, on plante des arbres. Et on découvre que nos rues peuvent devenir des espaces de vie et de jeu. Je m'étais engagée à ne faire qu'un mandat, alors je laisse la place à d'autres en 2032, mais je ne quitte pas le navire. Je rejoins l'équipe Canopée, chargée de semer des graines partout dans la ville. Je suis l'homme qui plante des arbres, après Giono. Pas pour moi, pas pour maintenant, mais pour les autres et pour demain. Ce texte est extrait d'un livre, Redirection urbaine, paru en janvier dernier aux éditions Apogée, écrit par Sylvain Grisot, un de nos invités ici présents. 100 ans après la charte d'Athènes, qui prenait une ville fonctionnelle, allons-nous vers une nouvelle théorie de la ville ou ouvrons-nous réellement de nouveaux horizons?
Pour parler de ces changements nécessaires et donc pour remettre la ville dans la bonne direction, on accueille donc Sylvain Grisot. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Vous êtes urbaniste, essayiste, consultant et enseignant. Vous êtes anthropologue de formation, ce que j'ai découvert en préparant l'émission, ce qui m'a beaucoup plu. On sait que l'action publique locale est une des clés de l'adaptation de nos villes, mais une autre clé est l'action des opérateurs fonciers et immobiliers qui doivent souvent revoir profondément leur manière de fonctionner. Pour en parler et aborder notamment la question du rôle des opérateurs immobiliers publics, nous accueillons Charlotte Girert, directrice transition RSE et innovation de SNCF Immobilier. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Donc Charlotte Girert, vous avez pratiqué tous les métiers de l'aménageur, d'abord à la RATP, puis à SNCF Immobilier, où vous avez par exemple lancé en 2015 les pratiques d'urbanisme temporaire, et de fil en aiguille, vous êtes maintenant en train de déployer des nouveaux critères de valeur. On y reviendra. Alors, on avait une question pour tous les deux, une première question. Vous êtes voilà, tous les deux des professionnels reconnus comme engagés en direction des transitions. Est-ce que vous arrivez à dater dans vos carrières respectives, à dater vos bifurcations professionnelles, Charlotte?
Alors, sans avoir vu ce qui allait suivre, mais comme par hasard, j'allais dire, très clairement, c'est au moment du Covid. Nous, en 2015, on avait en effet, avec SNCF Immobilier, commencé tout ce qu'on appelait l'urbanisme temporaire ou transitoire, avec cette idée qu'avant le projet classique, on pouvait avoir de la place pour faire d'autres types de projets et que nos bâtiments, qui avaient peut-être pas un état formidable, en réalité, vus par d'autres, occupés par d'autres, avec d'autres méthodes et d'autres moyens, étaient des lieux absolument incroyables de création, de vie, voire même de modèles de résilience déjà, et en tout cas sur le plan social. Et au moment du Covid, on voit beaucoup d'endroits fermés, les bureaux classiques, et en fait, paradoxalement, ces tiers-lieux, ces lieux d'urbanisme transitoire, ils ont bien résisté, ils ont été très actifs pendant cette période, parce qu'ils hybridaient des modèles, parce qu'il y avait certainement un attachement des gens à venir dans ces lieux qui étaient des lieux de mélange et de mixité, et on sait que dans les périodes de crise, la possibilité de rencontrer finalement d'autres personnes et un mode de résilience. Et on s'est dit que finalement, on avait fait de l'urbanisme de crise avant la crise, en développant ces projets d'urbanisme transitoire. Et on a commencé à réfléchir à ce qui pourrait être un urbanisme de transition à partir de ce moment-là, en se disant que finalement, les modes classiques d'opération de la ville étaient peut-être plus totalement, en tout cas partout, adaptés aux enjeux qu'on avait à régler. Et qu'un acteur comme SNCF Immobilier, mais comme d'autres, qui ont un patrimoine vaste, historique, et sur tout le territoire, et donc avec des formes d'actifs très différentes, avait peut-être des moyens de résistance, en tout cas assez intéressants. Et c'est vraiment là, à ce moment-là, où bah, ça n'a pas forcément une image très positive, mais quand j'ai vu que c'était des lieux, finalement, où on distribuait de l'alimentaire pour les jeunes étudiants, des choses comme ça, au cœur des villes, c'était les lieux qui fonctionnaient encore. Et ça, ça nous a posé beaucoup de questions.
Merci Sylvain. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu un déclic comme ça et qui a fait que vous avez voulu bifurquer?
Ouais, c'est marrant parce que c'est une question que je pose à pas mal d'acteurs de la fabrique de la ville et avec chacun à son moment ou
non,
pas d'ailleurs.
Pour inverser les rôles.
Ouais, carrément. Ou pas.
On va réussir.
on va y arriver. Moi, j'ai pas un instant en fait. J'ai pas eu mon moment Jean Covici ou voilà. J'ai fait des paris et progressivement, je me suis radicalisé avec le temps. J'ai envie de dire, voilà, plus ça avance, plus je le suis. Mais ça a été aussi des paris d'entrepreneur. En 2015, j'ai créé ma structure qui s'appelle Dixit.net, qui est visible pour ses productions et son travail de lobbying, mais qui est avant tout une structure de conseil avec un parti pris, c'est de travailler que sur du tissu urbain existant. Moi, je travaillais déjà sur des friches depuis assez longtemps, comme maître d'ouvrage, comme maître d'œuvre, sur du conseil. Et voilà. Et moi, je décide à ce moment-là de faire que le travail sur l'existant, que de la densification, que la ville sur la ville, hein, comme on dit dans la profession. Et c'était pas un pari idéologique, c'était un pari entrepreneurial quelque part. Hein. J'aimais bien faire ça, c'était complexe. Et puis finalement, on n'était pas nombreux à le faire. Voilà, ça m'allait bien. Et puis au fur et à mesure, je me suis aperçu que ça avait du sens de plus en plus. Et en fait, moi, c'est plutôt les processus de réflexion et d'écriture en fait qui obligent à réfléchir, qui ont fait que progressivement, je me suis radicalisé. Même si le terme est sans doute pas le bon, quoi.
Donc, oui, finalement, ce serait une forme de pragmatisme qui vous a poussé à travailler là-dessus.
Oui, peut-être, oui. En tout cas, un processus progressif. Et puis, je partage avec beaucoup aussi le sentiment qu'on agit, on est sur des projets, il y a des trucs qu'on sent pas, on aimerait que ce soit, voilà, un peu moins. Il y a une forme de dissonance cognitive, hein, okay. Chez pas mal de professionnels, que j'ai tenté de corriger au fur et à mesure, jusqu'à un moment, tracer un trait entre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, quelque part.
Hein. Alors, depuis la crise du Covid, qu'évoquait Charlotte Girard, d'autres crises ont pris le relais, et parfois amplifié même par les enseignements des différents confinements. Désormais, les économies européennes sont fragilisées par les suites de la crise du Covid. La guerre en Ukraine a éclaté. L'inflation et la hausse des taux d'intérêt ont renforcé la crise du logement. Et on a une crise de l'immobilier économique qui s'est installée. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez les tendances actuelles?
Et comment vos bifurcations peuvent aider? Parce que ce qui valait il y a 10 ans, 2015 c'était il y a 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui ça a encore du sens ou est-ce qu'il faut accélérer et qu'est-ce qu'il faut accélérer?
Alors, moi, il me semble qu'une des tendances actuelles complexes, c'est que quels que soient les acteurs et leur puissance même économique, la décision se fait maintenant dans un monde d'incertitude globale, qui est à toutes les échelles en réalité, très locale, très globale. Et peut-être pour des entreprises, c'est ça la difficulté. On fait des paris dans un monde d'incertitude sur lequel on manque finalement de capacité d'analyse et de compréhension parce que ça pose des sujets sur lesquels jusqu'à maintenant, je parlerai d'un point de vue tout simple, de données par exemple, de qualification ou la façon dont on renseignait la nature d'un immobilier, à quoi il servait, comment il fonctionnait. On n'a plus assez de données, ou en tout cas, on n'a pas les bonnes données. Et donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on est en train de réviser, c'est une sorte de dataset qui va nous permettre réellement de répondre à des questions de consommation de nos bâtiments, que ce soit d'énergie ou de fluide, finalement, qu'est-ce qu'on a en termes de matériaux dans ces bâtiments, quelles sont leurs fondations, enfin des points sur lesquels plus personne ne se posait vraiment cette question, y compris par exemple la façon de piloter la technique d'un bâtiment. On a confié à beaucoup d'acteurs ces sujets-là et on se rend compte quand on veut baisser la température qu'il y a 3000 boutons à régler. Ça ne marchera plus vraiment parce qu'on n'a plus la capacité, je pense, de cette abondance de techniques et que par ailleurs, on a des nouveaux besoins absolument essentiels et cruciaux sur lesquels il va falloir mettre l'accent et la force technique pour résoudre ces difficultés.
Ouais, moi, je partage tout à fait le constat. En fait, en 2020, on est rentré dans ce que j'appelle les 30 turbulentes. Et ce qu'il faut qu'on prenne bien et qu'on partage là, c'est qu'en fait, c'est pas juste des fluctuations plus rapides, c'est une période de choc et de rupture. Et quelque part, nos organisations, elles sont taillées pour s'adapter. On a mis en avant le terme de l'agilité, etc. Et quelque part, capacité à s'adapter à des fluctuations du milieu. Les crises immobilières sont un bon exemple, hein, avec des organisations qui savent gérer les coûts, prolonger les projets, etc. C'est plus ou moins douloureux, mais globalement, on a une force de production de la ville qui sait s'adapter à des flux, à des évolutions des marchés. C'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. On vit un changement de modèle, un retournement, une forme d'effondrement d'une pratique de fabrication de la ville, et ça nécessite de s'organiser différemment. Aujourd'hui, nous, c'est le travail qu'on fait dans les organisations, en accompagnant des dirigeants, des comités exécutifs, etc., à apprendre finalement à avoir une stratégie, à renouer avec une logique de stratégie et pas simplement de réponse tactique, hein, dans cette période-là, et quelque part à renoncer aussi à des formes d'efficacité pour acquérir de la robustesse, on pourrait dire, c'est-à-dire capacité à s'adapter aux fluctuations de l'environnement. C'est pas du tout évident en soi, dans toutes les organisations, mais quand on fait la ville, hein, c'est d'autant plus compliqué, parce que tout bâtiment, tout projet de bâtiment qu'on lance aujourd'hui, le chantier va commencer dans 4-5 ans. Et on voit bien, on peut avoir 2-3 siècles qui se sont passés d'ici 4-5 ans. Et pareil, d'autant plus sur des objets urbains plus lourds.
Mais cette émission s'appelle « Les valeurs d'après la crise ». Est-ce que dans ce que vous êtes en train de dire tous les deux, il n'y a pas une inversion des priorités et des gens les plus importants ? Parce que Sylvain, quand j'entends ce que vous venez de dire, ou ce que Charlotte dit en filigrane... C'est tout d'un coup, ceux qui sont le plus impliqués pensaient qu'ils étaient ceux qui tirent la corde, la tête de cordée. C'était ceux qui tiraient l'animation de la ville. Et aujourd'hui, au motif qu'ils sont les plus impliqués, les villes seraient désespérantes. Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que quand on lit votre livre « Redirection urbaine », on s'aperçoit qu'on peut faire des choses très simples. Débitumer, on n'a pas besoin de l'ensemble de l'appareil immobilier. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment, justement, cette mutation va s'opérer, qui va permettre peut-être de changer les pratiques de l'urbanisme, justement? Parce que changer les valeurs, c'est changer les priorités, mais c'est aussi changer les priorités d'acteurs. Qui est le premier? Qui est le premier outil? Ah ben c'est un peu plus dur quand
même. Non, mais
hein,
les premiers seront
drôle.
Les derniers. Non, mais on
voit bien. Ne vous inquiétez pas, on a encore 40 minutes.
Oh, non, mais bien sûr. Non, mais on a un retournement et on voit bien là-dessus que la question de l'usage devient essentielle. Là où on a passé beaucoup de temps à planifier, à organiser, à structurer, et on a commencé à mettre un coin dans le système avec les occupations temporaires notamment, hein, qui viennent questionner les programmes ou autres, on s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui, on va mettre 5 ans, par exemple, à réaliser un projet d'espace public, mais qu'il est déjà obsolète. C'est-à-dire que l'utilisateur, le gestionnaire derrière, bah, il doit être au début, mais aussi, on doit sans doute faire moins, en fait, faire beaucoup plus modestement, de façon à faire adaptable. Et c'est ça qui change tout. Donc ça, c'est des principes, hein, c'est des principes d'action, mais on voit bien que globalement, on retourne aussi les choses, c'est-à-dire que dans nos projets comme dans nos stratégies d'organisation, on s'est posé ces 10 dernières années un enjeu qui est de moins faire mal à la planète, hein, c'est des politiques RSE, c'est une pertinence environnementale, etc., etc. Et aujourd'hui, on fait des projets urbains, des projets d'espace public, des projets de bâtiments, mais aussi des projets d'organisation et stratégie, en imaginant comment la planète peut nous rendre les coûts. Et on parle de résilience, etc., etc. C'est là où il y a une inversion et à mon avis aussi une forme de modestie sur ce qu'on peut choisir aujourd'hui. Et c'est là où l'utilisateur, il revient, et donc l'utilisateur, c'est aussi l'habitant, etc., etc. Il revient, il redevient central, ou le gestionnaire du lieu.
Mais alors, oui, justement, vers Charlotte, il faut donc changer les pratiques de l'urbanisme. Je sais que quand on s'est rencontrés, il y a maintenant
Quelques années.
Quelques années. En tout cas, en particulier en 2015, dans ces fameux jurys qui introduisaient la révolution à la SNCF, vous disiez que vous aviez passé beaucoup de temps, et c'était une façon de faire la ville aussi, à protéger des terrains. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez un actif immobilier incroyable et beaucoup de fonciers, parce que le réseau pouvait avoir besoin de ça. Donc, il y avait une manière de faire la ville, parce que ça fait aussi partie de la ville, qui était de se dire, pour demain, on a besoin de ça, donc on va tout mettre de côté. Et on parlera peut-être des inondations à Valence, parce que je pense que j'aimerais bien vous entendre tous les deux sur justement ce que ça veut dire en termes d'équilibre des stratégies. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ouais, alors, ça m'inspire beaucoup de choses, mais j'aurais bien voulu répondre à la précédente question sur qu'est-ce qui change aujourd'hui le facteur numéro 1. Et avec un exemple très concret, nous, on est engagés pour une trajectoire de décarbonation de notre immobilier de 50% à 2030 par rapport à 2021. 50% de décarbonation, c'est plus que les engagements des SNBC. Et très honnêtement, au début, on était un peu dubitatif. Il se trouve qu'on a déjà fait 30% en fait, sur ces 50% par du comportement. Et donc ça, c'est très important parce que c'est ce que disent les ONG, c'est ce qui est dit, mais il se trouve qu'on l'a mesuré et calculé. Et donc moi, je pense que notre premier sujet, c'est l'humain. Et en réalité, les crises actuelles, en tout cas celles sur lesquelles moi je serais plus particulièrement qu'à la crise climatique, en fait, elles redonnent des clés à l'humain, au sensible, qui comprend tout à fait ce qui est en train de se passer, très simplement parce qu'il a trop chaud, trop froid, il en a marre que tout soit trempé chez lui. Et en réalité, ce facteur humain, on l'avait peut-être un peu oublié, mais c'est aussi le premier objectif de nos villes et de notre immobilier, c'est d'abriter l'humain. Et je trouve qu'en réalité, on peut voir les choses de façon assez positive, c'est-à-dire que finalement, on revient au cœur de nos métiers, de comprendre quels sont les usages, comment fonctionne un bâtiment. Et pour la question de l'adaptation, c'est assez fondamental. Un bâtiment de grande hauteur avec des personnes âgées et quelques ascenseurs, en période de chaleur, il sera beaucoup plus vulnérable qu'un autre type d'actif qui serait sur simplement deux étages ou si l'ascenseur ne marche plus, au moins on peut encore sortir de l'immeuble. Donc très honnêtement, moi j'ai cette sensation-là qu'on revient en fait au cœur de nos métiers et au cœur de leur raison d'être. L'humain, en tout cas nous, dans nos équipes aujourd'hui, il y a une vraie pression des opérationnels sur le terrain qui, d'eux-mêmes, remontent énormément de sujets.
Et quelque part... Quoi comme sujet, par exemple ?
Par exemple, sur quand on réalise des nouveaux bâtiments, est-ce que finalement, bitumer comme on faisait jusqu'à maintenant du parking, ça a vraiment du sens ? Il y a d'autres types d'enrobés. Finalement, il y a une petite boîte locale qui fait de l'économie circulaire très bien pour fournir des bureaux et des chaises. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des contrats cadres incroyables ? On est quand même le deuxième acheteur de mobilier en France et on n'a pas de contrat de réparation de notre mobilier. Donc, on voit bien qu'il y a des incompréhensions. Alors, ça, c'est des constats qu'on fait là maintenant, mais je pense qu'une grande partie de la ressource, elle est dans l'être humain. Et le fait de redonner une capacité d'action aux équipes, et là, c'est là où toute la complexité, c'est comment ça se croise avec des stratégies globales d'entreprise ensuite. Et là, on vient à la question que tu posais sur la question des terrains et des fonciers de la SNCF ou de grands propriétaires, de se dire finalement comment ils peuvent jouer dans ce rôle, quel rôle ils peuvent jouer. Le rôle classique qu'on avait imaginé peut-être de valorisation et de création urbaine aux abords des villes, c'est un rôle important, mais c'est en fait qu'un centième de ce qui se passe sur nos terrains aujourd'hui. L'essentiel de nos terrains, c'est en effet servir la question du ferroviaire. Et cette question du ferroviaire, aujourd'hui, on peut la poser de plusieurs façons. On peut la poser sous un angle purement d'infrastructure ferroviaire, où on trace des rails et on crée une infrastructure. Mais en réalité, cette infrastructure ferroviaire, elle a besoin d'énergie, par exemple. Donc, on peut aussi imaginer que nous-mêmes, on produise de l'énergie. Elle a besoin de réseaux d'eau, elle a besoin de biodiversité, elle a besoin d'adaptation de ses terrains aux alentours. Et donc, certainement que... La question de l'infrastructure en général et des besoins fonciers pour l'infrastructure se pose aujourd'hui très différemment, en particulier pour permettre une résilience de ces infrastructures qu'il y a ne serait-ce que 10 ans.
Donc finalement, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que aujourd'hui, pour que la ville fonctionne mieux, il faut faire davantage de place à ses usagers et parier sur les comportements plutôt que sur des solutions techniques ou des technologies. Sylvain, est-ce que, selon vous, pour que la ville fonctionne mieux, à quoi faut-il donner de la place ?
bah, je vais dire des banalités au vivant, bien sûr. Et dedans, dedans, voilà, on va retrouver les humains, on va retrouver le vivant en soi, végétal, animal, etc., etc. Après, la ville, de quoi on parle, voilà, peut-être qu'il faut donner de la place aussi, non pas aux grands principes et aux grandes théories, mais aux réalités concrètes de terrain, avant tout, quoi, et à toute leur diversité, diversité de solutions, etc. Donc ça, là-dessus, on a des territoires, on a des sujets, on a des enjeux, on a des habitants, des formes d'habiter, des temps, d'ailleurs, aussi, de la ville, etc. Puis après, on a des acteurs et des organisations. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, avec un acteur ben voilà, type SNCF Immo, c'est qu'à un moment, on va pouvoir travailler du côté des territoires, un par un, du côté des projets urbains, et puis on va aussi pouvoir travailler sur des organisations qui, elles-mêmes, par leur empreinte spatiale, par leur pratique du territoire, peuvent avoir un effet systémique. Moi, c'est ce que, enfin, c'est comment est-ce qu'on arrête d'être d'un côté ou de l'autre et comment est-ce qu'on travaille vraiment ces deux champs-là pour accélérer la transformation des pratiques.
Alors, je vais juste dire ça pour après la pause. Vous allez réfléchir pendant la pause. On n'a donc plus le droit de faire des grands projets.
C'est une vraie question, ouais.
Donc, réfléchissez.
Et donc, on écoute pendant une première pause musicale Modern Love de David Bowie.
Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+.
There's no sign of life.
De retour sur le plateau de Ainsi va la ville, vous êtes toujours sur Cause commune et nous sommes toujours avec, en compagnie de Dominique Alba, avec Sylvain Grisot et Charlotte Girard. Avant la pause, une question qui fâche peut-être était posée. Faut-il continuer à mener des grands projets urbains? Charlotte Girard.
Ah bah, peut-être une des premières questions, c'est qu'est-ce qu'on appellerait aujourd'hui un grand projet? En réalité, est-ce que c'est construire beaucoup de mètres carrés neufs? Est-ce que c'est rendre beaucoup, beaucoup de services à la population? Est-ce que c'est symboliquement s'occuper de beaucoup de territoires? C'est un peu compliqué aujourd'hui, cette question du grand projet. Je vois, par exemple, pour nos sujets, on a évidemment des grands équipements industriels, des grands technicentres et autres, mais en réalité, si on regarde les mètres carrés de ces grands équipements, ils pèsent peu par rapport à tous les micros petits bâtiments qu'on travaille quotidiennement. On a 25 000 bâtiments. Sur ces 25 000 bâtiments, il y a peut-être 200, 300 qui sont ce qu'on appellerait des grands bâtiments. Et en réalité, on ne peut pas s'occuper que ces grands bâtiments, tout simplement parce que sur un réseau, il vous faut plusieurs points d'accès. Voilà. Donc, je pense que la question du grand projet, elle pose la question des solidarités et des alliances de territoire, puisque on peut imaginer un grand projet, mais qui vivrait tout seul et il ne fonctionnerait pas si bien que ça assez vite, il y aurait des difficultés. Il y a des grands projets qui sont peu visibles, qui consomment peu de mètres carrés ou d'énergie, et qui pourtant font des grands changements. Donc, tu évoquais tout ce qui est les cours d'école ou des rues aux écoles, enfin des projets qu'on connaît bien. Ça a changé complètement le fonctionnement, la physionomie et le type de sociabilité de certains quartiers avec peu de choses en réalité. Donc c'est vraiment cette équation du grand projet. Pour moi, c'est ce qui fait l'effet levier le plus important que j'appellerais grand projet.
Sylvain.
Oui, on a eu et on a fait globalement pas mal le job, hein. Une concentration finalement d'attention sur certains périmètres, certaines grosses infrastructures ces 20-30 dernières années. Bien ou pas bien, peu importe. Peu importe, non, c'est une vraie question, mais en tout cas aujourd'hui, c'est plus la question en fait. La question c'est comment est-ce qu'on mène cette adaptation des espaces urbains, parce qu'on a vraiment ce triple virage, hein, décarbonation, adaptation à un climat qui change, et puis apprentissage d'une nouvelle résilience, hein, d'une forme de nouvelle même philosophie de gestion des risques. Ça, c'est un virage pour 2050, et c'est pas sur les grandes opérations neuves ou les nouveaux bâtiments, c'est pour l'ensemble de la ville. Or, on a déjà construit au moins 80% de la ville de 2050, c'est-à-dire que le sujet central, c'est ça. Donc, c'est peut-être moins la logique de grands projets urbains au sens de quartiers situés, grandes opérations, dont on commence sans doute à voir la fin aussi d'un point de vue opérationnel, que le fait de lancer des grandes transformations, mais partout, hein, du diffus. Dans mon bouquin, je prends l'exemple de la canopée. La canopée, c'est pas une forêt urbaine très dense sur la place de la mairie, quelle que soit la mairie. C'est une infrastructure de résilience végétale partout et qui a une emprise immense et pas que sur l'espace public. C'est-à-dire que si on ne traite que la question de la végétalisation de l'espace public, c'est évidemment nécessaire, c'est exemplaire, mais c'est absolument pas suffisant pour avoir les impacts qu'on veut sur le climat. Donc, il y a des grands projets à mener. Il y a aussi beaucoup de grands projets de résilience, pour le coup, qui sont des projets extrêmement discrets, voire pas du tout sexy politiquement et pas visibles.
Comme quoi, par exemple?
Notamment, là, on le voit sur la question de l'eau, hein, de l'approvisionnement en eau, etc. On est sur des questions derrière de sécurisation, de relais. On va faire des investissements. Il faut faire les bons investissements, hein, pas partir sur une logique de course en avant, de maladaptation, etc., etc. Mais on voit bien aussi avec les premiers chocs, hein, les tout premiers chocs en termes de pénurie, qu'en fait, ils ont surtout révélé non pas l'ampleur du bouleversement climatique, mais l'ampleur des défauts des réseaux existants et notamment l'absence de gros entretiens, hein, sur un certain nombre de nos infrastructures. Donc, voilà. Et ça, si vous voulez investir là-dessus, c'est à la fois vital et pas visible.
Alors, c'est parfait. Ça me permet justement d'aller un peu dans le plus dur. Quand je m'occupais de la pure, c'est vrai qu'on s'est servi de l'eau, je prends l'exemple de l'eau, pour travailler sur ce qui aujourd'hui est un sujet qui est partout, le taux d'usage des bâtiments ou l'intensité d'usage des bâtiments. Puisque justement, en ayant accès aux données de l'eau potable, on sait exactement quel est le taux d'usage d'un espace n'importe où dans le monde, si je puis me permettre. Et ça a deux avantages. C'est que d'une part, on montre qu'on utilise très peu les mètres carrés que nous avons construits, donc nous avons une réserve et nous allons en parler. Et puis que par ailleurs, ça permet à l'industriel, qui est l'opérateur de l'eau, de prévoir justement comment faire évoluer son outil industriel. Et donc, cette approche extrêmement pragmatique d'une agence d'urbanisme a ouvert en fait deux champs, qui sont celui dont on parle peu, qui est la ville des services. Donc, on n'en parlera pas dans cette émission, mais ça fera l'objet d'une prochaine émission parce que ce sont vraiment des sujets, les déchets, l'eau, etc. Mais aussi la ressource, en fait, que la ville, en fait, est une ressource. Certains disent la mine urbaine. Et donc, je sais que, Sylvain, vous avez beaucoup à dire sur le BTP, mais Charlotte, avant, je voudrais dire deux, trois points. Le tirer parti de l'existant, qui est un de vos mantras. Aujourd'hui, c'est une guerre des chiffres. On a une vacance immobilière qui a sans doute toujours existé, mais que maintenant on voit et qui s'est accéléré parce que des actifs récemment livrés, en fin de compte, n'ont plus d'équilibre économique. Donc, comment les utiliser? Et vous êtes le deuxième propriétaire de France après l'État, ce qui n'est pas rien. Et je lis la description publique de la SNCF Immobilier, c'est « Afin d'assurer la gestion et la valorisation de son patrimoine immobilier estimé à 8,5 millions de mètres carrés de bâtiments industriels, tertiaires et sociaux, ainsi qu'à 20 000 hectares de fonciers, dont 3 000 urbanisables jusqu'à présent, et 100 000 logements, dont 90% de logements sociaux, SNCF a créé en 2015, l'année de votre naissance, une entité spécifique SNCF Immobilier. Pourriez-vous, vous l'avez déjà bien décrit, mais peut-être aujourd'hui rentrer dans le dur de la nouvelle échelle de valeur que vous êtes en train de mettre en place pour valoriser ce patrimoine, puisque grâce à cette longue expérience qui est la vôtre des 10 dernières années, aujourd'hui, je pense que vous êtes leader dans quelques indicateurs que vous souhaitez mettre en avant. Et Sylvain, on reviendra aussi sur ce sujet. Je sais que vous avez beaucoup soutenu l'IntensiScore et que tout ça va à l'inverse du BTP. Et donc, vous serez par contre, je dirais, interrogé sur l'évolution obligatoire que cela implique pour les entreprises du BTP.
Je me prépare.
Voilà.
Alors, peut-être ce qui fait la particularité de notre patrimoine, c'est qu'en effet, il est historique, je l'ai évoqué, il a à peu près 75 ans d'âge moyen. Et ce qui s'est assez vite, ce qui est apparu assez rapidement, c'est qu'on n'allait pas faire tabula rasa de tout notre immobilier pour créer des bâtiments totalement neufs, répondant à toutes les normes de décrets tertiaires, d'efficacité énergétique et autres. Donc en fait, nous, notre changement de regard, c'est qu'aujourd'hui, la question du stock, elle est finalement prédominante dans nos métiers. Certes, il y a du flux, il y a des nouveaux projets, il y a de la création de mètres carrés neufs, mais ça reste quasiment un centième peut-être à peu près du mètre carré qu'on opère annuellement. Donc en fait, la grande question, c'est ce stock, cet existant. Quels sont les destins possibles? Un premier destin, c'est qu'en effet, ceux qui sont stratégiques pour notre fonctionnement ferroviaire, c'est en effet des travaux de mise aux normes, d'adaptation, qui vont porter sur des centaines de millions d'euros, évidemment, puisqu'on a des millions de mètres carrés, comme on l'a évoqué. Mais certainement, une partie de l'ensemble de ces sites ou de ces bâtiments, en réalité, parce que à la fois, ils pourront difficilement être mis aux normes, mais aussi parce qu'ils sont plus dans des espaces de vie ou d'activité aujourd'hui, il faut qu'on envisage un autre destin. Alors, on parle souvent des actifs échoués, mais c'est un vrai sujet, une vraie préoccupation. Ça va avec le fait, en effet, d'augmenter la performance de l'autre partie de la question immobilière. Et puis aussi, certainement, une des questions qui est posée au travers de ça, c'est est-ce qu'on n'est pas un peu trop lourdement équipé en immobilier, en gros? Comment on fait de la sobriété immobilière pour que, à la fois, on réponde à nos services, à l'exigence nouvelle aussi de retour vers la question du ferroviaire, tout en allégeant considérablement le poids de ce qu'est cet immobilier qui est vaste, large, à peu près dans toutes les villes et du coup sous toute forme d'actifs. Et donc, c'est certainement une transformation assez globale, surtout que les autres grands gestionnaires ont aussi cette même préoccupation d'alléger considérablement le poids que représente la question immobilière. Et donc, si je reviens sur les quelques orientations possibles, il y a donc la création de mètres carrés neufs, il y a le fait de réparer, restaurer, il y a ceux qui n'arriveront peut-être pas à franchir cette barre et on trouvera des dessins peut-être de, je sais pas, de zones de visite.
Vous parliez de zones écologiques ou de services écologiques.
Et la quatrième hypothèse, c'est qu'en effet, finalement, ces sites qui sont, bah, comme je l'évoquais, très bien répartis dans toute la France, souvent dans des logiques de réseau, finalement, pourraient être des infrastructures écologiques assez parfaites. Et que certainement, il y a un nouveau type de service qu'on pourrait envisager de proposer, en tout cas au territoire.
En deux mots, qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure écologique ?
Une infrastructure écologique, alors on travaille par exemple...
Le train.
C'en est une, mais c'est pas la seule. En tout cas, par exemple, à Laon, dans l'Aisne, on a un site assez vaste qui fait à peu près 80 hectares, qui se trouve être occupé par deux anciennes rotondes elles-mêmes inscrites au monument historique. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que finalement, peut-être le meilleur destin de ce site, c'est de permettre de retisser des corridors écologiques par rapport au territoire, d'accueillir éventuellement des zones de prairies qui, on sait, sont des bons puits de carbone, et puis travailler un peu la question, par exemple, de l'agriculture pour le lin, qui est aujourd'hui une filière qui émerge sur la question des matériaux de construction, et on est très consommateurs, nous, de matériaux de construction. Donc, en gros, c'est se dire que l'ensemble de ces sites qu'on appelait friches pendant très longtemps sont en réalité certainement des ressources très précieuses qui peuvent contribuer en réalité à nous mettre plutôt du côté du producteur d'une ressource que uniquement consommateur de terrain, d'énergie ou de matériaux.
Donc, ça veut dire qu'il faudrait assumer de ne pas construire sur certains terrains, assumer de les laisser, non pas en friche, mais en jachère, c'est-à-dire pour qu'ils puissent...
Construire une infrastructure écologique. Mmh. Alors, c'est une construction, mais différente.
C'est ça, sous une autre forme, avec un autre type de service, un autre modèle économique. Et il se trouve que, je pense qu'on a aussi une vision peut-être un peu biaisée de ce que sont les marchés de l'immobilier. Et très concrètement, c'est des endroits où on n'a pas non plus d'acquéreurs, y compris les collectivités. C'est des sites compliqués, anciens. Et je pense que c'est... Enfin, la vraie question, c'est demain, qui va, en termes d'acteurs publics, porter, en fait, cet héritage immobilier et foncier qui fait partie de nos paysages et de nos territoires et qui n'est pas dans un marché économique viable, quel qu'il soit. En fait.
C'est bien pour ça qu'il faut changer la grille de valeur, parce que ça ne peut plus être l'immobilier qui fait la valeur et qui fait le marché.
Et donc, c'est
pour ça soit autre chose.
On pense aux services écologiques, on pense à la capacité de mesurer le carbone, le fait d'améliorer la circulation de l'eau, de limiter l'érosion, limiter les vents. En effet, il y a tout un ensemble d'aménités, hein, en termes de santé qui pourraient être regardées. Et on a commencé, nous, en effet, à évaluer sur certaines régions test les valeurs qu'on pourrait adosser à ces hectares qui sont en effet des surfaces importantes.
Donc, si je récapitule, plutôt que de se contenter, entre guillemets, ce qui est déjà beaucoup, d'accueillir l'activité ferroviaire de la SNCF et de valoriser de manière économique le reste des terrains, vous commencez à réorienter vers d'autres, pour rendre d'autres types de services que de transporter des voyageurs à la population, et notamment les services écologiques. Pour le BTP, est-ce que ces réorientations, ça existe aussi, Sylvain Grisot ? Je veux dire, on comprend bien qu'un grand opérateur public puisse avoir quelque part la surface stratégique et également temporelle pour réorienter sur des années, voire des décennies, ces activités. Comment les entreprises du BTP, je crois que vous travaillez avec certaines d'entre elles, font pour se poser la question de leur redirection, de leur changement de modèle d'activité et d'avenir ?
Ben, en fait, moi je suis pas certain que ce soit plus facile pour SNCF Immobilier, parce qu'il y a une logique, ou la SNCF plus globalement, parce qu'il y a une logique d'intérêt général, et il y a une logique de temps long, que pour d'autres acteurs, et aujourd'hui d'ailleurs ça fait partie nous des interrogations qu'on a, c'est-à-dire on travaille avec des acteurs publics et privés, dans ces logiques de redirection. Et une des grandes questions, c'est qui est outillé aujourd'hui pour y arriver. C'est-à-dire quand on prend et aujourd'hui c'est pas évident, c'est-à-dire que on a des acteurs publics d'intérêt général qui ont un mal de chien à penser le temps long, et on a des entreprises privées capitalistiques, tout ce qu'on veut, des grands méchants pour certains, etc., qui pour autant ont intégré au cœur de leur business model des logiques de temps long. Et qui vont faire des gestes, alors dans leur intérêt économique bien compris, mais qui sont des gestes qui sont raccord avec les enjeux planétaires.
Est-ce que vous aurez des exemples ?
Ben, par exemple, aujourd'hui, quand on a un investisseur du temps long qui va chercher à avoir une rentabilité de son bien immobilier, mais pas que demain et après-demain, mais aussi après-après-demain. C'est-à-dire qu'il regarde autant la rentabilité qu'il aura en 2025, mais la pérennité de son bien en 2050. Il va être attentif à la fois à la bonne localisation par rapport aux enjeux de risque, mais aussi à avoir des qualités techniques qui sont associées à l'adaptation ou la capacité de s'adapter au climat, mais aussi, par exemple, des formes de confort, de sous-optimalité des surfaces, par exemple, pour qu'il puisse y avoir des changements de mode de vie, etc., etc. Ça, ça vaut si je suis un investisseur du temps long, donc autant intéressé à la réussite aujourd'hui qu'en 2050. Si je suis un investisseur du temps court, ben, je vais essayer d'optimiser finalement l'efficacité de mon bien sur les prochaines années et puis go.
Mais le BTP, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose et en même temps. Dans la question de la redirection, qui est vraiment la redirection des organisations, c'est quelque part, moi, le thème du bouquin, c'est moins la redirection de la ville que la redirection des organisations qui font la ville. Et aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je dédie mon temps à ça. En fait, on fait un travail avec les organisations, un peu tous les niveaux, pas que les dirigeants, pour faire la distinction entre ce que l'on fait et ce que l'on est. C'est assez différent. Et en fait, dans ce que l'on est, c'est aussi ces choses auxquelles on tient. Et bien souvent, on associe les deux. On est promoteur, on travaille avec un promoteur, par exemple, qui fait du neuf, qui a très longtemps fait du neuf.
Maintenant, il fait du vieux.
Mais en fait, c'est ce qu'ils ont compris que eux, ils font du neuf avec du vieux, comme le dit l'expression. Et ce qu'ils ont compris aussi dans la discussion, dans les échanges qu'on a, c'est ce qu'ils sont, ce que l'on est, c'est quoi? C'est des transformateurs de l'espace urbain. Et donc la question étant, nous on arrive, on sait mener des projets, on prend un espace urbain et on le transforme. On comprend à la fois les besoins du territoire. Transformer un foncier en construisant ou transformer un bâtiment déjà là en un autre usage, c'est pas simplement un changement de marché, c'est un changement de métier. C'est un bouleversement complet de la chaîne de valeur, des acteurs, des compétences, de l'organisation de projet, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, on ne change pas ce que l'on est. On change ce que l'on fait. C'est très différent. Et aujourd'hui, quand on accompagne ces organisations, si je prends par exemple le BTP, aujourd'hui, c'est se dire un acteur qu'on accompagne qui se pose des questions très claires sur l'opportunité d'abandonner, par exemple, les marchés de la production routière en neuf en France.
Un acteur du BTP.
Ouais. Qui dit, ça c'est un marché dont on voit qu'il... Nous, on postule le fait qu'il s'éteint. C'est finalement regarder ce dernier tronçon d'autoroute, qui est certainement le tronçon de trop de la 69, comme étant non pas un échec, mais finalement le dernier et la fin d'une histoire, et eux anticipent cette fin-là. Par contre, regarder... cette nécessité de construire, je dis construire, de planter, mais de construire, de faire cette nouvelle canopée comme étant aussi un champ d'opportunité. Et donc, c'est aujourd'hui des acteurs qui se posent des questions fondamentales sur toute une partie de leur activité.
Et donc, ça irait jusqu'à se reconvertir dans planter des arbres.
En fait, c'est jamais le grand soir dans les organisations. C'est jamais le grand soir. Et donc, c'est aujourd'hui s'interroger à limiter les investissements sur une activité dont on sait qu'elle est à terme condamné, se préparer à la fermer, mais à la fermer proprement, et redéployer, c'est ça la redirection, redéployer des savoir-faire, du capital, et surtout des femmes et des hommes qui font, pour faire les nouveaux métiers qu'ils ont déjà entamés, c'est-à-dire déjà engagés pour une entreprise du BTP, du travail aujourd'hui sur le végétal.
Charlotte, je crois que vous vouliez répondre.
Oui, je pense qu'il y a un sujet qu'on a peut-être, on tourne autour, mais peut-être pas évoqué clairement, c'est qu'aujourd'hui, la question du financement et du bancaire, elle est au cœur de nos sujets, parce que quelles que soient nos ambitions, j'allais dire, de transition écologique, le financement va être un mur important. Et ce qui est très intéressant, et que les acteurs de la ville sont... pas forcément tout de suite formé à la question, c'est qu'il y a désormais des méthodes européennes autour de la question financière qui peuvent nous aider en fait à penser ces sujets-là. Le mot fait toujours un peu peur, mais tout ce qui va être de l'ordre de la taxonomie, de la CSRD, ça fait à peu près 4 bilans économiques, en tout cas pour le groupe, qui sont en train de modifier complètement en fait la question de où je fais mes investissements et quels sont les éléments de preuve que je suis capable d'opposer à des questionnements sur ces sujets-là. Pourquoi c'est très important? Là, il se trouve que depuis un mois dans différentes tables rondes, enfin, on le dit clairement, c'est que les prêts bancaires sont les taux de ces prêts dépendent de votre capacité à fournir des indicateurs de qualité sur les sujets de taxonomie qui sont l'atténuation, l'adaptation, le fait de ne pas dégrader la question de l'eau, de la biodiversité, de l'économie circulaire et de la pollution. Donc un acteur engagé qui en effet, comme évoque Sylvain, serait en train de modifier son modèle économique, il sait très bien financièrement ce que ça peut lui apporter. Alors c'est certes des économies un peu différentes sur des temps plus longs, certainement avec des taux de retour plus compliqués, et voilà. Mais c'est vraiment ça ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est un mouvement européen. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'Europe va être le bon soldat tout seul ou réussir à entraîner les autres? Mais c'est vraiment ça la question aujourd'hui. C'est l'argent qu'on met aujourd'hui, comment en fait on peut le retrouver à un moment dans la chaîne de valeur.
C'est effectivement essentiel et structurant. Peut-être, pour continuer à vous interpeller, vous avez tous les deux commencé en parlant de l'humain et de l'usage, qui, lui, n'est pas encore présent dans cette échelle. Donc, on a quelques éléments qu'on sait quantifier. D'ailleurs, le PLU bioclimatique de Paris, qui maintenant est en vigueur, en tout cas va être rapidement en vigueur, il a justement introduit ces 9 critères qui sont des critères tout à fait inhabituels, je dirais, dans la manière de regarder les réglementations urbaines. Et je trouve ça intéressant que, en tout cas, comme vous le dites, c'est les sujets les plus délicats. Est-ce que vous pensez que dans ces indicateurs de valeur, il y a ceux dont vous avez parlé, il y a ceux sur lesquels Sylvain a travaillé, mais l'humain, on va arriver à le mettre quelque part. Est-ce que vous pensez que dans le travail sur la mutation de la ville, les grands changements, cette vision 100 ans après la Charte d'Athènes, comme nous disions en introduction, peut arriver quelque part?
Alors, en tout cas, pour répondre à un bout de cette question-là, c'est ce que je n'ai pas forcément aussi évoqué tout à l'heure, c'est que nous, par exemple, on démolit beaucoup de mètres carrés aujourd'hui. C'est important de le dire, c'est-à-dire que notre parc, maintenant, il est de 7,9 millions de mètres carrés, donc c'est plus 8,5 millions. C'est plus 8,5 millions parce qu'on démolit de l'ordre de 100 000 mètres carrés chaque année. Quand je dis ça, on démolit des mètres carrés, ça fait un certain temps qu'on le fait, et on le fait pour des raisons, en effet, d'économie d'énergie, de vacances, d'obsolescence des biens et autres sujets. Et donc ça, par exemple, la démolition des biens, c'est quelque chose dans la taxonomie ou la CSRD que vous pouvez faire apparaître justement au titre de l'atténuation. Donc il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui. Alors c'est un règlement qui fait 400 pages, qui est en anglais, qui est un peu indigeste, mais très honnêtement, ça vaut vraiment la peine de s'y pencher et de faire une journée de formation, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui qui va nous aider. Et en effet, dans la taxonomie, il y a peu d'éléments sur la question humaine, mais par contre, dans la CSRD, nous, je crois, sur 690 points d'indicateurs, il y en a quasiment 200 qui relèvent de la question éthique, humaine, par rapport aux salariés de l'entreprise, mais ils sont bien évalués désormais dans ces matrices, et c'est absolument essentiel. Donc, en effet, l'humain, il apparaît par ces outils-là. Et c'est pour ça que je défends l'idée que, certes, aujourd'hui, seuls les grands groupes de plus de, je crois, 5 000 salariés, enfin, je ne sais plus exactement les chiffres, doivent remplir ces exercices annuel, mais j'invite vraiment les acteurs publics à regarder comment c'est constitué, parce qu'en réalité, c'est là où on va pouvoir faire figurer, et en plus, dans des documents comparables à une échelle européenne, la réalité des actions et des investissements qui sont réalisés. Donc, c'est quand même des thermomètres très utiles. Alors après, plusieurs thermomètres peuvent faire des grandes températures. Enfin, bon, bref.
Et une collectivité pourrait.
Et alors, des collectivités, nous,
être ouverte à l'emprunt.
On échange pas mal avec des collectivités qui travaillent autour du sujet du budget vert, mais qui n'est pas exactement le même sujet, mais qui sont vraiment en train de s'interroger sur les mêmes questions pour pouvoir justement, dans un monde économique, on arriverait à tisser des liens de la politique publique en passant par l'aménagement jusqu'à l'usager, de regarder est-ce qu'on arriverait à avoir une calculette sur laquelle on a au moins 3-4 boutons qui sont les mêmes boutons. En réalité, on peut le faire, ça demande un exercice, on a engagé le travail parce qu'on ne peut pas être seul, nous, à évaluer. Si on évalue tout seul, et on sera très content en disant qu'on a trouvé une super valeur, mais si ce n'est pas la même version de la valeur que vous pouvez avoir, ça ne servira pas à grand-chose. Et donc, je pense que c'est vraiment cette question du débat collectif sur qu'est-ce qu'il y a de la valeur et qui compte cette valeur et pour le compte de qui.
Alors, on va arriver, enfin, moi, je, par rapport à ça, on va arriver à responsabiliser un peu le tableur Excel, mais enfin, ça restera un tableur Excel. Il y a le non financier qui prend de plus en plus de place dans les décisions. Et moi, je crois que, sinon, il y a à la fois le bilan qui change, et qui est de plus en plus conscient. Donc ça, c'est important. On a le financier, on a l'assurantiel aussi, hein, qui impose aussi de regarder un peu plus le temps long. La question des risques est quelque part qui impose de se poser la question de la robustesse d'un modèle, d'un territoire, d'un bien, alors que bah, finalement la vague n'est pas encore là, on peut faire semblant qu'elle ne va pas venir, etc. Et puis, il y a tout le non-financier qui prend une part plus ou moins importante en fonction des gouvernances, en fonction des modes d'organisation, en fonction finalement de ce que l'on est, hein, de la culture des organisations, qui prend de plus en plus de place. Aujourd'hui, la question RH devient absolument centrale, l'attractivité de l'organisation, comment est-ce qu'on arrive à avoir des gens à être attractifs, c'est pareil pour un territoire, est-ce qu'on donne envie. Ça va aussi un petit peu plus loin, est-ce qu'on arrive à avoir un niveau d'engagement, et finalement, ça va jusqu'à toucher les dirigeants. C'est quelle est notre posture par rapport à l'organisation. Et on retrouve cette question de est-ce qu'on est attaché à l'organisation ou est-ce qu'on est là juste pour passer et à faire à prendre des décisions sur la rationalité d'un tableur Excel. Avec une vraie difficulté, c'est qu'on a un certain nombre de processus décisionnels qui vont être basés uniquement là-dessus, une rationalité court terme et chiffrée. Et on voit bien que ces choix-là sont souvent non pertinents par rapport aux enjeux du siècle.
Et c'est là où sans doute le sous-optimum pourra parvenir à dépasser l'optimum, c'est en permettant de... Enfin, c'est ça qui permettra de s'écarter un peu du tableur Excel, j'imagine. On avait une dernière question à vous poser, alors qu'on s'achemine vers la fin de l'émission. Finalement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut renoncer dans les pratiques, dans nos villes?
Les règlements d'urbanisme.
À quoi devons-nous renoncer rapidement, Sylvain Grisot?
Moi, je pense que le renoncement, c'est une nécessité, mais c'est un renoncement pour faire. Et donc, c'est pas une leçon à donner à d'autres, c'est une question à se poser à soi. Et nous, on fait des plans d'action, comme beaucoup de consultants, et puis à un moment, on sonne la fin de la récré, dans les comités de direction, on dit « bon, maintenant vous vous êtes fait rêver avec les deux A, adapter, adopter, ce qu'on aimerait bien faire, mais on sait très bien que vous n'allez jamais le faire, donc on va commencer par le troisième DA, qui est abandonné. À quoi on renonce aujourd'hui? À quoi vous décidez de renoncer aujourd'hui? Parce que ce n'est pas indispensable. Mmh. Et en fait, c'est l'action la plus immédiate. Ben, moi, je ne veux pas donner une leçon
mais toi, tu ferais
à chacun. Moi, je passe mon temps à renoncer, en fait. En tant qu'entrepreneur, la question que je me pose, elle n'est pas qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais en plus, mais qu'est-ce que j'arrête. Parce que le fait de s'arrêter donne des opportunités, donne du temps long, etc. etc. Ça fait peur, parce qu'on a peur du vide. Mais en fait, c'est la première action à mener, c'est celle qui a le plus d'impact aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne fait pas.
Charlotte Girard, à quoi devons-nous renoncer?
Et peut-être commencer, Nancy, un bon conseil quand même à tout le monde. Vous avez une réunion de service lundi matin, une réunion de direction, annulez-la. Vous la repoussez pas, vous l'annulez. Vous allez gagner du temps, vous l'annulez au dernier moment et ça permettra à chacun de penser, à réfléchir.
Bon, je suis pas totalement d'accord sur le fait de plus faire de... Non, mais ce qui est en fait très complexe, c'est qu'il se trouve qu'on doit à la fois se dire qu'on va devoir se préparer à être dans des situations de risque très récurrentes. Et donc, la protection telle qu'on envisageait depuis l'après-guerre, c'est un concept qui me semble difficile de tenir, ou alors dans certaines situations très exceptionnelles. Donc, quand on est dans une société où la protection telle qu'on la connaissait se transforme totalement, qu'est-ce qui va prendre cette place-là? C'est vraiment un sujet important. Et je trouve que nous, en tant que fabricants de villes, la question de protéger d'une façon certainement très différente, qui est peut-être de mettre à l'abri ou en tout cas prévoir des espaces de refuge, prévoir des espaces de stock. Ce matin, j'intervenais dans un autre contexte où, en gros, je résumais la situation en disant il faut que dans nos gros, grands immeubles de bureaux, on ait un peu de stock d'eau, un peu de stock de biscuits, quelques sacs de couchage et des lampes de poche, parce qu'en réalité, et on peut y être très vite confronté, il y a certains soirs où vos salariés, il faudra mieux qu'ils restent dans le bureau plutôt que faire la route pour rentrer chez eux. Exemple, Valence, qui se passe à 20h au moment où les gens rentrent chez eux, où les employeurs d'un côté laissent les gens partir Et personne ne se pose la question de est-ce que je dois pas... Enfin, d'ailleurs, je pense potentiellement les gens se sont posés cette question, mais rien n'a été pensé pour dire ce soir, je reste au bureau, en fait, parce que c'est là où je suis en sécurité. Et donc, c'est vraiment des questions assez fondamentales qui sont posées, puisque le lieu de la sécurité, c'est peut-être pas celui qu'on a imaginé aujourd'hui. Et en tout cas, c'est peut-être avec des outils très basiques de se dire, là, on va rester ensemble. En fait, personne ne rentre chez soi, parce que c'est la complexité, ça va être de faire ces trajets-là. Donc, ça remet des sujets assez importants. Et cette idée de qu'on ne peut plus être dans une logique de protection, mais peut-être d'abri, de refuge et de réparation, ça me semble fondamental. Et en réalité, c'est un peu ça aujourd'hui, moi, que je me pose au quotidien. C'est en faisant ce projet, cette action, est-ce que je répare quelque chose? C'est vraiment ça.
Bravo, merci.
Merci.
Merci beaucoup. Merci à vous, Sylvain Grisot, Charlotte Girard, d'être venu nous parler de votre rapport à la ville et d'être venu partager vos réflexions avec nous. Ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Olivier Gréco et à Plateau Urbain, ainsi qu'au Moment, de mettre à disposition le studio au sein du projet Césure. Et à bientôt pour un nouvel épisode d'Ainsi va la ville. On se quitte en écoutant Pet Shop Boys, All the Young Dudes.
Stars from his face.